Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 785? Il s'est passé beaucoup de choses, certainement. Mais en 785, Charlemagne, qui vient de remporter une série de victoires sur les Saxons, les redoutables Saxons, promulgue une loi qui ordonne que les vaincus, des païens, se convertissent au christianisme. Et les livres d'histoire nous rapportent qu'il y a eu alors de nombreuses conversions. Par milliers, les Saxons se sont convertis au christianisme. Alors, petite précision qui peut expliquer un tel succès. Dans sa loi, Charlemagne stipulait que tous ceux qui refuseraient de se convertir au christianisme seraient exécutés. Alors, cette contrainte exercée par Charlemagne sur les Saxons fait qu'à nos yeux, bien sûr, nous n'accordons pas une valeur spirituelle à cette conversion. Ce sont des conversions forcées. Il ne s'agit pas de véritables conversions, mais de simulacres de conversion. Mais aux yeux des historiens, et quand vous ouvrez une encyclopédie, pour eux, il s'agit pourtant bel et bien d'une conversion, de conversion au christianisme. Et cela illustre à quel point la notion de conversion est quelque chose qui peut être compris différemment par les uns ou par les autres. Alors, qu'est-ce que l'on met derrière le mot conversion? Et il est important de bien comprendre ce qu'on met derrière la conversion, parce que pour nous, chrétiens évangéliques en tout cas, se convertir est la chose la plus importante que nous devons accomplir au cours de notre vie. Nous pouvons passer à côté d'une vie professionnelle réussie, nous pouvons ne pas trouver le bonheur dans notre vie affective, nous pouvons aussi faire des erreurs monumentales au cours de notre vie, mais s'il y a une chose et une seule que nous ne devrions pas rater, c'est cette occasion de nous convertir à Jésus-Christ. Parce que pour nous, la conversion, ça change tout. La conversion est ce qui nous fait passer de la mort à la vie. Mais la conversion, c'est aussi qui fait que nous étions ennemis de Dieu. Nous l'avons entendu tout à l'heure, Romains 5:8. Nous étions ennemis de Dieu. Mais par notre conversion, nous devenons enfants de Dieu. Et c'est une nouvelle vie qui s'offre à nous, une vie où nous marchons en tant qu'enfants de Dieu. Et notre conversion est ce qui nous fait hériter la vie éternelle. Et cette nouvelle naissance, nous appelons aussi ça une nouvelle naissance, nous permet d'avancer en direction de Jésus. Et progressivement, pas après pas, nous grandissons à l'image de Christ pour lui ressembler de plus en plus, parce que notre destinée, le grand projet que Dieu a pour nous, c'est de nous rendre l'image qui est altérée par notre péché, de nous rendre l'image que nous sommes, à savoir des êtres créés en image de Dieu. Que le péché est venu ternir tout ça, nous empêche d'être véritablement ce pour quoi nous avons été créés, des êtres libres qui aiment librement le Seigneur, des êtres qui ressemblent à Jésus-Christ. Nous sommes d'accord pour dire qu'il est vital de se convertir, mais la question reste ouverte. C'est quoi la véritable conversion? Eh bien voilà la définition que je vous propose ce matin. C'est que la véritable conversion, c'est une repentance continue. Alors peut-être que pour l'instant, ça reste encore bien flou pour vous, mais j'espère que d'ici quelques minutes, les choses deviendront plus claires. Et je vous invite à prier avec moi maintenant. Seigneur, tu es le Créateur Tout-Puissant. Tout ce qui existe a été créé par toi. Toute créature a été créée par toi. Et nous-mêmes, nous jouissons d'un statut spécial. Nous avons été créés en ton image. Mais Seigneur, par le péché, nous sommes éloignés de toi. Et dans ta grâce, Seigneur, tu nous offres la vie éternelle. Te prions, Seigneur, pour que chacun de nous puisse saisir cette main que tu lui tends et ne plus la lâcher. Merci parce que les projets que tu as pour nous sont des projets d'amour, L'amour est un de tes attributs. Mais nous, nous sommes aussi des êtres libres, des êtres que tu as créés, avec la possibilité de te suivre ou de ne pas le faire. Te prions, Seigneur. Oui, pour que nos cœurs s'ouvrent, que nous puissions comprendre ce qu'est la conversion, mais ce qu'est aussi la repentance, et qu'ainsi nous puissions avoir la joie de cette profonde communion avec toi, une communion qui commence à notre conversion, mais une communion qui est appelée à durer pour l'éternité. Grâce soit rendue, Seigneur. Amen. Alors, ces deux passages qui retiendront plus particulièrement notre attention ce matin. Alors, dans le premier passage que je vais bientôt vous projeter, est un passage qui se situe dans le cadre d'un discours que Paul fait au roi Hérode Agrippa. Et Paul est en train de lui raconter de quelle manière lui-même s'est converti à Jésus-Christ et comment Dieu l'a envoyé annoncer l'évangile aux juifs et aux non-juifs, comment il a envoyé Paul pour qu'il appelle les juifs et non-juifs à la conversion. Et voici ce premier verset, acte 26, verset 20. Et Paul dit, voilà, « J'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Le contexte du second passage, lui, est différent. Paul écrit une lettre aux chrétiens de Corinthe, dont il a fondé l'église quelques années plus tôt. Et vous savez que l'église de Corinthe, ce n'est pas une église qui est en bonne santé. Des personnes qui n'étaient pas réellement converties se sont jointes aux véritables chrétiens et leur influence a entraîné l'ensemble de l'église à s'éloigner de Dieu. Et c'est pour cette raison-là que Paul a écrit plusieurs lettres aux Corinthiens afin de les exhorter à prendre conscience de ce qui se passait. Et il leur avait, entre autres, écrit ceci dans la première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 34, où Paul leur écrivait « Revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » Et suite à cette lettre, les Corinthiens ont été touchés et ont changé d'attitude. Et Paul leur écrit une nouvelle fois. Et le verset suivant donc, est issu de cette deuxième lettre aux Corinthiens. Et Paul leur écrit ceci. « La tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Alors juste quelques petites remarques, parce que si jamais vous avez ouvert vos Bibles, peut-être que dans vos traductions, ce n'est pas écrit comme ça. Dans un souci que nos contemporains comprennent la Bible, et les éditeurs, parce que le but des éditeurs, c'est que les gens comprennent ce que la Bible dit, eh bien, on parfois traduit ces mots différemment, parce que le français est une langue qui évolue, et les mots « conversion » et « repentance » ne sont plus forcément compris à l'heure actuelle comme c'était dans le sens biblique. Alors voilà comment probablement plusieurs de vos traductions traduisent cela. Quand le mot grec qui est traduit autrefois par la repentance ou se repentir est traduit généralement maintenant dans les traductions modernes par « changer » ou bien « changer radicalement »,« changer de comportement », changer d'attitude. Donc, au moins, tous les éditeurs sont d'accord pour dire que la notion de se repentir, c'est un changement. Et puis, la conversion à Dieu est traduite aussi parfois par se tourner vers Dieu ou retourner à Dieu. Alors, pour ce qui est de la conversion, ce n'est pas toujours facile de situer à quel moment se produit la conversion. Alors, certaines personnes peuvent dire le jour et même parfois l'heure où s'est produit leur conversion. D'autres peuvent situer plutôt leur conversion sur une période. Moi, c'est mon cas. C'est sur une période d'un mois. Entre le moment où j'étais athée et le moment où j'étais converti, il s'est déroulé un mois. Ma conversion, elle se situe où exactement là-dedans? J'ai du mal à le dire. Et puis d'autres sont incapables de dire à quel moment s'est produit leur conversion. Et c'est par exemple le cas des personnes qui ont grandi dans des familles chrétiennes. Cathy, par exemple, ne peut pas situer sa conversion à un moment précis. Elles n'ont pas le souvenir d'avoir, à un moment précis, donné leur cœur à Dieu Mais la conversion est quelque chose qui s'est produit dans un moment donné, peut-être s'inscrit dans le temps. Et ce qui est important, en fait, ce n'est pas vraiment de savoir à quel moment s'est produit la conversion. Ce qui est important, c'est de savoir si nous sommes véritablement convertis. Parce que ça change tout. Et ce qui caractérise la véritable conversion, c'est qu'elle est toujours, toujours accompagnée de la repentance. La conversion et la repentance vont toujours ensemble. Ce qu'on a vu dans Actes 26. J'ai annoncé la repentance et la conversion. Et je vous propose de voir maintenant en quoi consiste la conversion et la repentance. Et je pense que l'on peut distinguer 5 points que voici, et c'est ce qui est sur vos feuilles. Tout d'abord, soyons convaincus de notre péché. Demandons pardon à Dieu pour notre péché. Renonçons au péché. Croyons en Jésus, Sauveur et Seigneur, et persévérons dans la repentance. Donc tout d'abord, la conversion implique que nous devons dans un premier temps être convaincus de notre péché. Soyons convaincus de notre péché. Alors, nous sommes convaincus de notre péché lorsque nous prenons conscience que nous nous sommes détournés de Dieu, que nous l'avons rejeté de notre vie, ou bien que nous avons fait des choix contraires à sa volonté. Et la Bible nous dit que tout être humain sait que dans certains de sa vie, au moins, il se trouve en dehors de la volonté de Dieu. Voilà ce qui est écrit dans le livre des Romains, au chapitre 2, au verset 15. Il s'est dit à propos de personnes qui n'ont jamais entendu la loi de Dieu. Et Paul écrit cela. Il montre que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. Alors nous sommes tous d'ailleurs, ignorants de certains points de la volonté de Dieu, mais notre conscience nous accuse parfois de faire des choses qui se trouvent moralement en dehors de ce que Dieu attend. Et malheureusement, et c'est bien triste, la conscience est quelque chose que l'on peut parfois étouffer. Donc j'ai conscience que je suis en dehors de la volonté de Dieu, mais je vais justifier ce péché par quelque chose qui me libère de ma culpabilité. Et par exemple, parfois on dit, mais bon, je n'ai pas vraiment le choix. C'est mon patron qui demande ça. C'est pas moi, c'est mon patron. Ou alors, c'est pas si grave que cela. Ah oui, mes voisins le font, mes amis le font. Et puis il y a ce redoutable mais. C'est contraire à la volonté de Dieu. Mais. Et lorsque nous disons c'est un péché, mais, alors là, nous pouvons être certains que nous sommes mal partis, parce que derrière ce mais, nous pouvons excuser absolument tous les péchés. Parce que nous trouvons toujours de bonnes raisons pour justifier ce que nous faisons. Si nous faisons quelque chose, c'est que nous trouvons de bonnes raisons de le faire. Donc si nous disons « c'est un péché, mais » forcément, nous trouverons des raisons. Mais la prise de conscience de notre péché est un don de Dieu. Tant que nous sommes conscients de notre péché, c'est bon signe. Cela indique que l'Esprit de Dieu travaille en nous. C'est que Dieu ne se désintéresse pas de nous. Dieu ne nous a pas abandonnés, au contraire. Dieu travaille notre conscience parce que Dieu veut nous convaincre de notre péché. N'étouffons alors surtout pas cette conscience du péché, parce que cela reviendrait à étouffer l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ne cherchons pas à justifier ou relativiser notre péché, mais au contraire, laissons-nous convaincre par Dieu de notre péché. Parce que la volonté de Dieu n'est pas de nous écraser. Au contraire, Dieu veut nous donner la vie en nous faisant prendre conscience de notre péché. Car son souhait, c'est de nous amener à l'étape suivante, qui est la demande de pardon. pour notre péché. Demandons pardon à Dieu pour notre péché. Et la véritable conversion passe par la demande de pardon de notre péché. Mais là, attention, cette demande de pardon doit être sincère, c'est-à-dire motivée par notre cœur qui s'est laissé toucher et attristé d'avoir offensé Dieu. Parce que seule la tristesse qui nous vient de Dieu peut nous conduire au salut. Les autres raisons qui nous feraient regretter notre péché ne nous conduisent qu'à la mort. C'est ce qui nous est dit dans un des passages que nous regardons ce matin, 2 Corinthiens 7:10. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et nous qui sommes chrétiens évangéliques, là nous devons faire attention. Parce que nous connaissons l'importance de la conversion. Et nous devons être prudents, parce que sans le vouloir, nous pouvons pousser des gens à une fausse repentance. Parce que nous sommes tellement désireux que les gens que nous aimons se convertissent et soient sauvés, que nous leur mettons la pression parfois. Et nous ne sommes pas conscients, hein. Et nous sommes en plus animés de bonnes intentions. Nous avons le désir que ces personnes se convertissent. Quoi de mieux pourrions-nous espérer pour ces personnes ? Mais voilà, seulement parfois nous mettons justement de la pression sur nos enfants, sur nos amis. Et nous usons de toutes sortes de moyens de pression. La peur, par exemple, nous disons, mais si tu ne te convertis pas, tu seras pour toujours séparé de Dieu. Et c'est vrai, je veux dire, on a raison de dire ça. Ou bien la convoitise, ça c'est déjà un peu plus gênant. Nous faisons miroiter de belles choses. Si tu te convertis, ta vie sera transformée. Et ça aussi, c'est vrai. Dieu te bénira de bien des manières. Certainement. Mais pas forcément de la manière dont la personne l'espère. Dieu te donnera ceci ou cela et tu seras heureux. Ça, on peut l'espérer. Mais que réserve la vie de ces personnes ? Et la nuance entre l'annonce de l'évangile et la pression n'est pas toujours évidente à doser. Mais je pense que le pire des moyens de pression, le pire parce que celui-ci ne trouve aucun appui biblique, c'est le chantage affectif. Et par notre attitude, nous envoyons le message suivant. Je t'aime bien, mais si tu te convertissais, ah, je t'aimerais encore plus. Ou bien, je suis tellement malheureux que tu ne sois pas converti, mais je serais tellement heureux si jamais tu te convertissais, s'il te plaît, convertis-toi. Et on serait presque tenté de dire, et j'espère que nous ne faisons pas ça, on serait presque tenté de dire, mais si tu ne le fais pas pour Dieu, alors fais-le pour moi. En tant qu'Église aussi, et toujours sans le vouloir, nous exerçons une certaine pression sur les personnes qui se trouvent parmi nous et qui ne sont pas converties. Et il y a des personnes non converties qui se joignent à nous. Nous pouvons parfois exercer une pression, et cette pression, c'est la pression du groupe, la pression de l'intégration. Parce que si on se convertit, on peut se faire baptiser, ensuite on devient membre de l'Église, on peut voter aux assemblées générales. Et puis surtout, nous faisons partie du groupe des enfants de Dieu. La pression qui fait que quelqu'un demande pardon à Dieu pour son péché ne doit pas venir de l'extérieur, sinon la personne n'aura qu'une forme extérieure de la piété, n'aura que la forme extérieure. Ce sera peut-être une personne religieuse, une personne voilà, qui fera des choses que nous identifions comme ce que devrait faire un chrétien. Mais ce ne serait qu'un chrétien de nom qui ne connaîtrait pas Dieu personnellement et qui ne grandirait jamais à la ressemblance de Christ, parce qu'elle ne serait jamais passée par la repentance qui conduit à la vie. Ne faisons pas comme Charlemagne en mettant la pression sur les autres pour qu'ils se convertissent. La pression qui fait que quelqu'un demande pardon à Dieu doit être une pression exercée de l'intérieur, exercée par un cœur qui a touché Dieu et un cœur qui demande sincèrement pardon à Dieu parce que, en raison de son péché, elle est attristée d'avoir attristé Dieu. Et si cette tristesse est sincère, alors elle va conduire cette personne à une nouvelle étape, celle de renoncer au péché dont elle est consciente. Renonçons au péché. Alors, renoncer au péché, c'est prendre la résolution de ne plus commettre ce que nous savons être un péché. Alors d'un côté, c'est difficile de renoncer à notre péché. Parce que si jamais nous le commettions, c'est justement parce que nous y trouvions un intérêt personnel. Mais d'un autre côté, si notre cœur a réellement été touché par Dieu, nous devons être conscients que notre cœur ne sera plus jamais en paix si nous continuons à commettre ce péché. Au contraire, notre tristesse ne fera que grandir. Et Dieu nous demande de choisir entre deux amours, notre amour pour nous-mêmes, ou bien notre amour pour lui. Dieu nous demande de choisir continuer à pécher ou bien renoncer à notre péché. Et demander pardon et renoncer au péché dont nous avons conscience, c'est ce que la Bible appelle la repentance. La repentance est un changement radical, d'où certaines traductions qui disent cela. C'est un changement radical d'attitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de notre péché. Au lieu de vivre pour nous-mêmes et de faire ce que bon nous semble, nous faisons le choix de vivre pour Dieu et d'accomplir ce que Dieu attend de nous. La repentance est un changement radical qui touche notre cœur, et c'est un changement que nous ne regrettons jamais. C'est ce que nous dit notre passage. Alors bien sûr, nous imaginons que nous avons beaucoup à perdre en renonçant à notre péché. Eh bien, vous savez quoi, et vous le savez si vous êtes déjà passé par la repentance. Nous nous trompons lorsque nous nous imaginons que nous avons beaucoup à perdre. Nous avons au contraire tout à gagner lorsque nous renonçons au péché quel qu'il soit. Parce que si notre cœur a été touché par Dieu, de toute manière, donc nous ne serons plus jamais en paix. À moins que nous éteignions l'Esprit de Dieu. Et là, ce serait vraiment une grande perte pour nous. Lorsque nous n'avons plus conscience de notre péché, là, notre vie devient bien triste, bien terne. Alors que, au contraire, lorsque nous sommes conscients d'un péché et que nous faisons le choix d'y renoncer, eh bien, notre cœur est libéré d'un fardeau qui nous pourrissait la vie, et nous découvrons une nouvelle liberté, une nouvelle intimité avec Dieu, qui est bien plus belle et bien plus épanouissante que ce que nous apportait notre péché. La repentance est quelque chose que nous ne regrettons pas. Et pas simplement parce que c'est ce qui conduit à la vie éternelle, mais même dans notre quotidien. La liberté du péché est un plaisir qu'une fois qu'on y a goûté, on n'a plus envie de revenir en arrière. Eh bien, soyons conscients d'une chose, la véritable repentance, celle qui conduit au salut, cette repentance, si elle est sincère, doit nous conduire donc à un changement de vie, à un changement de comportement. J'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et ça, c'est un élément objectif qui nous permet de savoir si nous sommes passés par la véritable repentance. Est-ce que notre vie en porte les fruits ? Dieu attend de nous que nous renoncions à notre péché, et c'est justement pour cette raison qu'il nous a éclairés et qu'il nous a attristés. Et si jamais nous sommes prêts à tourner le dos à notre péché et renoncer, alors cela signifie aussi que nous venons de nous tourner vers Dieu, et alors que nous sommes prêts à saisir la main que Dieu nous tend. La repentance nous conduit à la foi en Jésus. Croyons en Jésus, Sauveur et Seigneur. Parce que Le renoncement au péché seul ne nous sauve pas. Ce n'est pas notre repentance qui efface notre péché. C'est uniquement le sacrifice de Jésus qui peut nous sauver. La repentance, elle, ne fait que nous conduire au salut. Voilà. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut. Mais c'est en nous convertissant à Jésus, c'est-à-dire en nous tournant vers Jésus, que nous bénéficions de ce salut. Et cela se fait dans la continuité de la repentance. Nous avons demandé pardon à Dieu pour notre péché. Eh bien, ce pardon nous est accordé parce que Jésus a payé le prix de notre péché à notre place. Jésus est devenu notre sauveur. Et nous avons abandonné notre péché pour suivre Jésus et pour lui obéir afin de ne plus pécher. Eh bien, Jésus est devenu le Seigneur de notre vie. Notre repentance précède notre conversion, mais elle ne fait pas que la précéder. La repentance va également suivre notre conversion. Il nous faut persévérer dans la repentance. Persévérons dans la repentance. Alors, persévérer dans la repentance ne signifie pas demander continuellement pardon à Dieu pour les péchés que nous avons commis autrefois. Les péchés d'autrefois auxquels nous avons renoncé et pour lesquels nous avons déjà demandé pardon. Ces péchés-là nous ont été définitivement pardonnés. Ce n'est plus pour ces péchés-là que nous devons nous repentir après notre conversion. Les péchés dont nous devons nous repentir, ce sont les péchés dont Dieu nous fait prendre conscience au fur et à mesure de notre marche avec lui. Donc notre repentance nous conduit à la conversion, mais notre conversion nous pousse à nous repentir de tout nouveau péché dont Dieu nous fait prendre conscience. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Et moi, quelque chose qui m'a souvent marqué, c'est, vous savez, des fois, on rencontre des chrétiens qui sont pour nous des modèles. On a vraiment l'impression que, si on pouvait leur ressembler, c'est vraiment que Dieu aurait travaillé dans notre cœur. Et nous, tels qu'on les voit, on les trouve sans péché. Et bien moi, ce qui me frappe, c'est lorsqu'on apprend à connaître ces personnes, c'est que toutes ont une profonde conscience de leur péché et sont attristés. Et cela me fait penser à l'apôtre Paul. Paul, quel modèle, l'apôtre Paul. Chrétien consacré, chrétien mature, qui pourtant, après bien des années de marche avec Dieu, continuait à dire de lui-même, en Romains 7, et Paul disait en parlant de lui-même, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Voilà la perception qu'il avait de lui-même. Et je pense que plus nous avançons avec Dieu, plus notre sensibilité au péché se développe. Et parfois, nous prenons conscience de péché dans notre vie, et jusqu'à présent, ça ne nous posait aucun souci. Mais c'est justement ça. Plus nous nous rapprochons de Jésus, plus notre conscience du péché s'affine. Un chrétien qui n'a pas conscience de péché dans sa vie doit s'interroger soit sur la réalité de sa conversion, soit sur l'état de son intimité, de sa proximité avec Dieu. Parce que voilà ce qu'il est écrit dans 1 Jean 1,8, et c'est dit à propos de chrétiens. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Si nous pensons que nous sommes tellement sanctifiés que nous n'avons plus de péché dans notre vie, eh bien nous nous trompons. Parce que tant que nous ne verrons pas Jésus face à face, nous ne serons pas encore parfaits. Nous sommes tous des êtres imparfaits. Vous qui êtes assis, moi qui suis devant vous, là, nous sommes tous des êtres imparfaits. Ce qui fait d'ailleurs des fois dans les églises... Il y a une certaine friction, mais grâce à ça, Dieu nous remet en question, nous permet d'avancer. au fur et à mesure que nous avançons en direction de Dieu, eh bien Dieu va nous faire prendre conscience de nouveaux péchés dans notre vie. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions alors la même chose que nous avons fait lors de notre conversion, c'est-à-dire que nous soyons attristés par ce péché, surtout que nous ne cherchions pas à le relativiser, et que nous demandions pardon pour ce péché, et aussi que nous y renoncions. Et la suite de 1 Jean 8 dit cela: « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Alors notre conversion, c'est un peu comme, j'aime bien cette image-là, c'est un peu comme le mariage. On fait une grave erreur si on considère que le mariage, c'est une ligne d'arrivée. Le mariage, c'est plutôt une ligne de départ. Bien, notre conversion marque un nouveau départ dans notre vie. D'ailleurs, une nouvelle vie s'ouvre à nous, une vie avec Jésus. Et bien, cette nouvelle vie avec Jésus nous amène constamment à continuer à nous repentir de notre péché, chaque fois que Dieu nous éclaire. La repentance et la conversion sont étroitement liées. L'une ne va pas sans l'autre. Mais je pense que si jamais nous devrions faire une distinction entre les deux, je dirais, alors j'ai pris ceci pour essayer d'illustrer, là, je dirais c'est comme si ça, voilà, ça c'est mon péché. Notre repentance consiste à, donc on prend conscience de notre péché, on en est attristé et on abandonne notre péché. Ça c'est la repentance. Et ce péché-là, Dieu nous demande de nous en détourner. Mais dans le même mouvement, lorsque nous nous détournons justement de notre péché, c'est là où nous pouvons nous tourner vers Jésus. Et la conversion, c'est ça, c'est se tourner vers Jésus. Et là, au fur et à mesure que nous allons avancer avec Jésus, ben à un moment, prenons conscience, tiens, il y a quelque chose qui me gêne. Et on prend conscience que ça, ah, ça aussi c'est un péché. Alors, plus petit que celui qu'on a abandonné, hein, amen. Mais ce péché-là, Dieu me demande à nouveau, lorsque j'en prends conscience, et ce péché dont j'ai conscience, c'est quelque chose qui me détourne de Dieu, et bien ce péché-là, je dois aussi l'abandonner. La repentance et la conversion sont liées. Que toute notre vie puisse être une repentance continue, pour que nous puissions, chaque jour de notre vie, nous rapprocher de plus en plus de Jésus.